Même audio. Vous ne l'avez pas vu? Vous pouvez l'entendre.
Pour introduire la Fondation pour la mémoire de l'esclavage et l'actualité du rôle que cette fondation a joué, je voudrais évoquer en fait une phrase entendue ce matin sur le trajet de Paris à Toulouse. Je suis votre chef de bord en juste un peu plus bronzé. C'est par ces mots que s'est présentée la personne qui assurait, entre autres responsabilités, les annonces aux voyageurs avec un humour tout droit sorti de service après-vente. Et au-delà de l'humour de ce chef de bord, donc endossant dans ce métier sérieux le rôle d'animateur, il m'a semblé aussi que se jouait un mécanisme dont la longue histoire nous sera déroulée ce soir par Aurélien Michel. Pourquoi finalement avait-il besoin de souligner qu'il était et chef de bord et noir ? Est-ce une double condition un peu improbable encore aujourd'hui en France ? Ou voulait-il avertir les passagers et prendre les devants sur l'assignation à sa couleur, que ne manqueraient pas de faire certains de ses passagers ? Voulait-il donner de la visibilité, tout en euphémisant un peu, mais avec une certaine fierté, à sa condition ? Cette phrase a résonné en moi comme une illustration des questionnements ouverts auxquels la Fondation est confrontée dans sa triple mission. En effet, notre fondation, née il y a à peine 3 ans, dans le prolongement de la loi Taubira, qui en 2001 a reconnu l'esclavage colonial et la traite comme des crimes contre l'humanité, a pour but de transmettre l'histoire et encourager la recherche sur l'histoire de l'esclavage et ses héritages et ses conséquences et ses séquelles. C'est aussi un but de valoriser les héritages culturels qui sont le fondement de la diversité de notre pays aujourd'hui. Et enfin, contribuer à la lutte contre le racisme, les discriminations qui en découlent, et œuvrer à un vivre ensemble qui soit réellement inclusif. Aux côtés des chercheurs, qu'ils soient historiens, sociologues, anthropologues, juristes, spécialistes de littérature, mais plus encore avec les collectivités, les associations, la communauté scolaire, la Fondation porte un message pour aujourd'hui. C'est ce que montre l'exposition que vous pouvez voir dans le hall aujourd'hui, qui a circulé depuis l'an dernier dans plus d'une centaine de lieux, y compris aux Antilles, à Mayotte, bientôt à La Réunion, et qui continue à s'enrichir avec les contributions de ces territoires. En racontant l'histoire de l'esclavage, en donnant toute leur place aux résistances, aux luttes contre cette forme d'oppression, elle contribue à construire un récit historique à plusieurs voix, plus juste, plus inclusif, et qui donne une vraie place aux Outre-mer et aux Afro-descendants, valorise leurs apports. En soulignant que les idéaux des droits humains, de liberté, égalité, fraternité, qui sont encore affichés avec fierté dans cette enceinte départementale, dans l'exposition que j'ai vue en entrant sur le parvis, donc en soulignant que ces idéaux des droits humains ont été particulièrement mis à l'épreuve, mais aussi mis en exergue dans la situation coloniale, dès la Révolution et après, l'exposition montre combien il est primordial de prendre en compte cette histoire, de célébrer ces personnes qui, de l'abbé Grégoire à Frantz Fanon, en passant par Louis Delgrès, Solitude, Jean-Baptiste Bellay, et j'en passe, et tous ceux restés dans l'ombre qui se sont battus pour la liberté et l'égalité. Eh bien, tout cela est primordial si l'on veut aujourd'hui que la jeunesse adhère pleinement à la valeur universelle de ses droits fondamentaux. C'est aussi ce que nous cherchons à décliner dans les territoires, dans un positionnement ouvert, par des partenariats avec les collectivités, par le soutien aux initiatives de terrain des associations œuvrant non seulement dans le champ de la mémoire, mais aussi dans celui de l'éducation populaire, de la citoyenneté. Ce soir, en représentant Jean-Marc Ayrault, notre président, et toute la petite équipe de la Fondation qui fait vivre ces 5 programmes, éducation, culture, citoyenneté, recherche et numérique, je suis là dans la ferme conviction que la Haute-Garonne pourra s'appuyer sur la FME pour éclairer dans son travail contre toutes les formes de discrimination et en faveur de l'égalité et de l'inclusion. Je remercie donc très vivement le président du conseil départemental. Je vous remercie, cher Aurélien Taravella, en votre qualité de président de la commission Valeurs de la République, ainsi que votre équipe des Chemins de la République, de nous avoir invités à prendre part à cet événement qui marque le début d'une coopération qui s'annonce riche et diverse, à l'image donc de ce que nous pouvons entendre aujourd'hui. L'intervention d'Aurélien Michel, qui collabore d'ailleurs régulièrement avec nous, puisqu'elle a été au comité scientifique de l'exposition, en est un exemple. Donc bonne soirée à toutes et à tous.
Même audio, une mémoire sonore.
Merci Dominique Taffin, merci Aurélien. On va laisser à Aurélia, à Michel le temps de s'installer au parvis. J'ai envie de vous dire merci à vous toutes et tous d'être venus ce soir pour cette soirée Chemin de la République qu'on souhaitait effectivement depuis longtemps consacrer à la mémoire de l'esclavage. Et il y a quelques mois, une rencontre avec Aurélia Michel au sortir de ses conférences fait qu'elle acceptait de venir jusqu'à nous. Et c'est effectivement l'ouverture d'une collaboration avec la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Donc Aurélia Michel, quelques mots pour vous présenter. Alors, vous êtes historienne, ça n'avait échappé à personne, je pense. Maîtresse de conférences spécialisée en histoire des Amériques noires à l'Université Paris-Cité. Vous êtes également chercheur au Centre d'études en sciences sociales sur les mondes africains, américains et asiatiques, autrement dit le CESMA. Vous travaillez beaucoup sur les enjeux de formation des sociétés latines nord-américaines à travers la création conjointe de l'esclavage noir et du racisme. Vous avez contribué au scénario du documentaire Les routes de l'esclavage diffusé sur Arte en 2018 et que je me permets de vous recommander puisqu'il est reprogrammé actuellement, vous pouvez y accéder en replay. Voilà, donc vous avez contribué à ce documentaire qui retrace pour la première fois, je crois, les différentes traites africaines sur plus d'un millier d'années, c'est ça, 1200 ans, sur le parcours que vous nous proposez. Alors là, je pose mes notes parce que vous êtes également l'autrice de Un monde en nègre et blanc. Vous avez publié en 2020 chez Au Seuil, c'est ça, une enquête qui montre que l'ordre racial s'est substitué au système esclavagiste, quand celui est devenu intenable moralement, économiquement. Mais là, c'est vous qui allez nous le dire, et beaucoup mieux que moi. J'ai envie de vous laisser, peut-être en vous demandant si j'oubliais quelque chose à cette présentation. Comme elle a la gentillesse de dire que non, peut-être pour introduire, moi j'aime bien les titres, mais j'aime bien aussi les sous-titres. Et, le sous-titre de l'ouvrage, c'est « Enquête historique sur l'ordre racial ». Donc Aurélia, pourquoi cet angle d'attaque? Pourquoi est-ce que vous avez choisi de faire de cette notion de race le sujet de cette œuvre et ce parti pris dans votre perspective d'historienne?
Merci beaucoup pour cette invitation. Merci beaucoup pour votre présence à tous et toutes. C'est l'occasion effectivement de partager avec vous ces réflexions, ce travail que je mène en tant qu'historienne, pour répondre très directement, l'enjeu de cette discussion ce soir, c'est de comprendre le racisme. C'est de comprendre le racisme, évidemment, pour nous aider à lutter contre le racisme, à le déconstruire, à s'en protéger, etc. Et de cette manière, comment l'histoire de l'esclavage, la compréhension de l'histoire de l'esclavage peut nous aider à lutter contre le racisme. Alors, j'avais choisi comme titre d'évoquer la mort de George Floyd en 2020, qui est donc mort étouffé par un policier devant une caméra, une vidéo qui a fait le tour du monde et qui a été un moment très important dans la prise de conscience sur le racisme actuel, sur l'actualité de ce racisme, et pas simplement aux États-Unis, puisque dans de nombreux pays, on a vu des manifestations spontanées, des réactions diverses et variées, en France, en Grande-Bretagne, en Belgique, dans l'Europe du Nord, au Portugal, en Espagne, en Australie, en Afrique du Nord, etc. etc. Et ce que cet embrasement a montré, et ainsi que le succès du slogan qui était accompagné, Black Lives Matter, c'est que nous sommes, de part et d'autre de l'Atlantique, dans un ensemble, une histoire commune, pris, saisi dans une histoire commune, qui conduit aux inégalités, aux violences, aux injustices que l'on peut regrouper sous le terme de racisme et qui ont touché plus particulièrement, c'est ce que je vais commencer quand même par ça ce soir, les personnes noires. Dans cet espace, donc, qui a réagi à la mort de George Floyd, il y a eu la France. Ça, bien sûr, à ce moment-là, résonnait aussi avec des affaires en cours en France, hein, notamment l'affaire Adama Traoré, qui est toujours en cours. Et peut-être que vous vous souvenez de ce moment, parce que dans les médias, on a beaucoup entendu dans le débat public que cette histoire du racisme, cette histoire de l'esclavage, c'était celle des États-Unis. C'était celle des États-Unis. On avait l'impression que cette mise à distance presque répulsive avec la question, le sujet, impossible. Il était impossible d'en faire une affaire française. Voilà. Alors, évidemment, personne n'a envie d'être raciste, ça c'est sûr. Même les racistes commencent toujours leur phrase par « je ne suis pas raciste, mais… » etc. Ou bien « je sais bien que les races n'existent pas, mais… » etc. Voilà, c'est toujours cette structure. Et c'est logique, puisque dans notre culture, notre morale, celle qui est transmise par l'école, par nos institutions en général… Évidemment, le racisme, c'est quasiment le mal absolu. Hein. C'est ce qui a directement conduit au processus de destruction des Juifs d'Europe, la Shoah. Et puis, en France, c'est un sentiment presque impossible, puisque la France est universaliste, elle est républicaine, et on ne cesse d'entendre, on l'entend aujourd'hui, on l'a entendu à l'occasion de George Floyd, mais on en parlait plus tôt. J'ai lu récemment des textes des années 30 qui rappellent qu'en France, on se targuait de n'être pas comme les États-Unis, où il y avait effectivement des lynchages de personnes noires par centaines, et que la France traite mieux ses noirs, hein, je mets des guillemets, que n'importe où dans le monde. Et c'est tout le problème d'aborder la lutte contre le racisme sur le plan moral. Et donc, celui de la culpabilité. On a toutes les chances ainsi de manquer notre objectif, puisqu'on fait face alors à des mécanismes de défense, de déni, qui peuvent être très forts, et nous empêcher donc de parler du sujet, d'évoquer, de déconstruire le sujet qui nous intéresse ce soir. Alors, c'est vrai aussi qu'il est compliqué de définir le racisme. Est-ce que, effectivement, c'est un acte moral, immoral plutôt. Alors, comment pourrait-on faire? Il y a d'abord, par exemple, des énoncés racistes, hein, des discours racistes, et on va dire, pour simplifier, que ce sont tous les discours qui reposent sur une justification plus ou moins théorique, plus ou moins rationnelle, disons, et qui utilisent la catégorie de race. Alors, race, ça voudrait dire des caractéristiques d'une population qui seraient transmises et donc permanentes. Voilà, c'est un groupe humain dont les caractéristiques seraient transmises de manière permanente. Alors, ces énoncés sur la race, raciaux, ils existent environ depuis la fin du 18e, le début du 19e surtout, et ils sont maintenant considérés quasiment unanimement comme obsolètes. Et surtout, depuis 1945, la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, la découverte de la Shoah, la création de l'UNESCO, le processus de décolonisation, qui ont beaucoup fait donc, pour permettre d'établir un consensus dans le monde scientifique, mais aussi dans le monde politique, que les races n'existent pas. Alors, c'est très important de rappeler que les races n'existent pas, c'est fondamental, mais ça, c'est insuffisant. C'est insuffisant puisque le racisme n'est pas simplement un énoncé ou une série d'énoncés, ce sont aussi très concrètement des violences, différents types de violences, de comportements, des insultes, des actes qui peuvent être répréhensibles sur le plan pénal, mais qu'il n'est pas toujours possible de démontrer. Surtout, le racisme, c'est un processus social qui produit des inégalités, qui les reproduit tout au long de la vie, dans toutes les sphères de la société, des discriminations plus ou moins discrètes se reproduisent et surtout renforcent des inégalités qui peuvent être aussi d'origine économique ou de genre. Et cette reproduction, elle s'installe par le biais d'institutions, la police, l'école, la justice, la presse, les médias, tout ce qui contribue aux représentations dans nos sociétés. Et dans ces mécanismes, il n'y a pas que de la violence ou des discriminations avérées. Il y a en fond un système social qui repose sur une série de préjugés, d'impensés, que l'on ne peut pas forcément imputer à un individu en particulier, mais qui, ensemble, produisent des situations de violence ou d'inégalité sociale. Et donc, ces préjugés, ces impensés, c'est cela que l'histoire de l'esclavage peut mettre à jour et permettre justement de penser. Comment se sont formés ces impensés et pourquoi sont-ils si importants encore aujourd'hui? Ce sont les deux questions auxquelles je voudrais répondre ce soir, rapidement. Parce qu'il faut en effet revenir à l'histoire de l'Europe moderne, au moment où l'Europe commence son expansion, c'est-à-dire au cours du XVe siècle, lors d'une sorte de révolution qui aura des impacts mondiaux, hein, c'est ce qu'on appelle la Renaissance, c'est le moment de l'humanisme, mais c'est surtout le moment de l'expansion coloniale européenne. Et ce principe colonial, eh bien, c'est encore le nôtre, c'est encore avec ce principe que je vais rappeler que nos économies fonctionnent aujourd'hui, et c'est très important de le comprendre, je dirais même que c'est la clé qui permet de comprendre non seulement la persistance de l'esclavage, mais de la race ensuite. Alors le principe colonial, il est très simple. Toute société produit des richesses pour sa subsistance, pour sa reproduction. Lorsqu'elle repose sur le principe colonial, elle produit également, elle le fait avec des ressources qui lui sont extérieures. C'est-à-dire qu'elle va aller s'appuyer sur des terres, des minerais, des matières premières, des humains, du travail humain, qui lui sont extérieurs. Extérieurs, mais qu'elle possède. C'est donc ces terres, ces minerais, ces écosystèmes, ces humains sont donc étrangers à la société, extérieurs à la société, mais ils sont aussi domestiques, hein, possédés dans le domaine de ces sociétés. Et cette extériorité est fondamentale pour ce principe colonial, car la société en question n'a pas, au fond, de compte à rendre ni à ses écosystèmes, ni à ses humains, ni à, voilà, à ses espaces. Ils sont prélevés, ils sont pris, et ils ne donnent pas lieu à un contre-échange ou à une, voilà, à, il n'y a pas de, rien n'est rendu aux sociétés qui produisent ces humains, ces écosystèmes, etc. Et c'est exactement ce principe qui se met en place par les royaumes chrétiens, alors d'abord Espagne et Portugal, sous l'autorité du pape, lorsque les navires européens explorent les côtes africaines, donc au cours du XVe siècle. Sur les îles au large de l'Atlantique, ils commencent à produire avec ce système, c'est-à-dire qu'ils sont hors de chez eux, sur des terres annexées, avec des populations étrangères, mais qui sont elles aussi annexées, c'est-à-dire des esclaves. Et au fond, ce qui permet ce système, c'est la rencontre avec les filières esclavagistes, les marchés esclavagistes qui existent sur le continent africain et dans lesquels les Européens s'immiscent. Alors, la rencontre avec l'esclavage, avec la possibilité de l'esclavage, c'est la condition du développement de ce système colonial. Puisque l'esclave, c'est le deuxième point, la deuxième clé pour comprendre les mécanismes raciaux qui nous touchent aujourd'hui, c'est que l'esclave a des caractéristiques particulières qu'on va retrouver dans toute société esclavagiste, dans les très nombreuses sociétés où justement l'esclavage a été utilisé. Justement, ce qui caractérise l'esclave, c'est son extériorité à la société. Il est donc absent de cette société, mais présent par son corps, par son travail, par ses activités, par sa personnalité, par les échanges affectifs qu'il peut engager, tout en restant extérieur. Extérieur sur le plan symbolique, bien sûr. Et ce plan symbolique, c'est à la fois très puissant, et c'est ce qui permet, ça peut se décliner, disons, en des situations extrêmement diverses. Ça n'est pas simplement l'esclave au travail dans les plantations antillaises, ça peut être par exemple les mères des sultans ottomans, qui sont toutes des esclaves, et qui vivent dans le plus luxueux harems de Topkapi à Istanbul. Ça peut être les généraux de l'armée mamelouque en Égypte. Et ça peut être, bien sûr, les travailleurs des plantations. Dans toutes ces situations, l'extériorité de l'esclave est la condition de son utilisation. C'est la condition par laquelle on peut aliéner, prendre, saisir ses activités et ne pas rendre, justement. On peut aliéner sa capacité à travailler, sa capacité à enfanter, à nourrir un enfant, son activité sexuelle. Et évidemment, dans le cas de l'esclavage européen, c'est son travail qui va intéresser l'économie européenne. Son travail est mis à disposition de la société et la société ne va rien rendre en échange. C'est pour cette raison que qui dit esclavage dit guerre ou traite hein, à l'origine qui produit donc la possibilité de l'esclavage. Donc, le principe même de l'esclavage induit une violence, hein, c'est cette violence qui construit l'extériorité de l'esclave, l'extorsion, la contrainte. Mais sur un deuxième niveau, la condition même de l'esclave provoque de la violence dans une société. D'abord parce que l'esclave, étant extérieur, est dépourvu de toute capacité à engager un lien de réciprocité, un lien social tout simplement, en dehors de la relation qu'il a avec son maître, ou plutôt que son maître a avec lui, qui peut être son propriétaire, qui peut être aussi une institution, un collectif. C'est la seule relation sociale, au fond, qui lui est possible, et dans laquelle n'intervient aucun tiers, ni État, ni justice, ni droit, ni tradition, ni coutume, ni parents. Voilà. Ensuite, et à nouveau ça a des conséquences importantes, l'esclave, puisqu'il est extérieur, n'est pas concerné par les règles fondamentales qui régissent les sociétés. Et je pense aux règles essentielles qui régulent la violence et la sexualité et qui existent dans toute société. Autrement dit, l'esclave étant extérieur, il n'est pas concerné par les interdits qui régissent une société. Ni l'inceste, ni le viol, ni le meurtre, ni même l'agression. Il est donc, par sa condition, disponible à la pulsion sexuelle ou agressive de son maître ou de l'entourage de son maître. Et ça, c'est très important de se souvenir de cette caractéristique quand on pense à l'évolution, aux mutations du racisme jusqu'à nos jours. C'est donc ce type de relation, ce type de société, avec ce type de relation sociale, donc, qui est développé à une échelle inédite, vertigineuse, à partir de la fin du XVIIe siècle et jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Puisque ce que les Portugais ont amorcé, la production donc de sucre sur des terres colonisées avec des esclaves, eh bien, ce système va se déployer à des échelles spectaculaires avec l'installation des Européens aux Amériques. D'abord avec des esclaves américains, puis des esclaves africains. Donc 12 millions d'individus en tout qui ont été déportés d'Afrique du début de la conquête d'Amérique jusqu'en 1850. La France, dans cette histoire, est sans doute la première puissance esclavagiste puisqu'elle était, elle possédait, disons, la plus grosse colonie productrice de sucre au XVIIIe siècle, la colonie de Saint-Domingue, qui avait près de 500 esclaves à la fin du XVIIIe siècle, et qui, dans le cas de la France, faisait reposer son économie en grande partie par la production coloniale, puisqu'on pense qu'on peut estimer que 15% de ce qu'on pourrait appeler le PIB aujourd'hui provenait de l'économie coloniale à la fin du XVIIIe siècle. Et plus que cela, en ce qui concerne la France, mais aussi d'autres pays européens, l'économie coloniale est au cœur de la construction de l'État. C'est particulièrement vrai pour la France, avec le règne de Louis XIV, Louis XIV organisant lui-même les compagnies de traite, les compagnies de colonisation, la mise en place d'une administration coloniale, des politiques de peuplement avec des politiques fiscales qui favorisent la plantation, et évidemment le fameux code noir que vous connaissez sans doute, rédigé par Colbert, qui régit donc l'organisation de cette économie de plantation. C'est aussi littéralement au cœur de l'économie européenne. Alors, d'abord parce que ça génère des profits considérables, que les investisseurs de cette économie sont les principaux banquiers, les principaux financiers. Antoine Crozat, par exemple, le banquier personnel hein, de Louis XIV, qui est lui-même président de compagnie et investisseur direct dans cette économie. Une des plus grosses fortunes de France de son époque, mais bien d'autres membres des élites politiques, économiques, sont directement investisseurs de la production esclavagiste. En amont aussi, parce que la production de ce qu'on appelle les marchandises de traite, alors par exemple les tissus qu'on appelle les indiennes, qui sont fabriqués dans de multiples manufactures européennes et qui servent donc comme marchandises échangées dans le commerce d'esclaves, mais aussi en aval la raffinerie du sucre, tous les procédés de transformation, commercialisation, distribution, qui concernent en fait tout le territoire européen, et puis aussi toutes les opérations financières qui supposent le déploiement d'un système capitaliste. Le prêt, les lettres de crédit, les systèmes d'assurance, l'échange, les activités bancaires, mais aussi la science de la comptabilité, les expériences de rationalisation du travail qui se sont énormément appuyées sur la plantation, hein, l'expérience, le laboratoire de la plantation. Et dans cette idée, c'est vrai pour la France, mais aussi pour les Anglais, ça c'est évident, mais aussi pour la Suisse, pour l'Italie, pour l'Allemagne, pour les Pays-Bas, la Belgique, etc. Toutes les économies européennes sont impliquées dans le dispositif. C'est donc l'Europe moderne. Et on comprend, en le lisant de cette manière, pourquoi il est si difficile de sortir de ce dispositif. Donc, en même temps que l'économie esclavagiste, disons, prend cette place centrale au cours du XVIIIe siècle dans l'économie et dans la politique européenne, la traite qui sous-tend hein, cette économie, la plantation esclavagiste, le recours au travail esclave, au fond, a aussi des conséquences sur les sociétés qui se forment dans ce contexte, c'est-à-dire les sociétés américaines qui se forment dans ces régions, en particulier la Caraïbe, mais il y aura aussi des plantations en Asie, dans l'océan Indien. Plus tard, elles se développeront en Afrique, en Asie du Sud-Est. Et donc, ces sociétés particulières, eh bien, elles ont la caractéristique d'être formées par le peuplement d'une majorité d'esclaves africains. Et c'est d'ailleurs de cette façon que, dès la fin du XVIe siècle, le mot « negros », le mot portugais pour parler des esclaves africains achetés pour les Amériques, et le mot « esclave » vont devenir synonymes, et cette association extrêmement tenace, eh bien, c'est ce que traduit le terme français de « nègre », qui est une traduction donc littérale, directe, du portugais. Donc ce peuplement de ces régions se fait par la traite. Ça veut dire, sur le plan social, que par exemple, on se fiche complètement des conditions de reproduction de cette population esclave. De toute façon, si les individus esclaves survivent plus de 3 ans, eh bien, ça devient rentable pour leurs investisseurs, pour leurs propriétaires. Donc à partir de là, la vie d'un noir ne compte pas, hein, précisément, pour reprendre le slogan, ou bien il compte pour ce qu'il coûte le prix de son investissement. Et par ailleurs, la situation, on va dire, structurelle de violence du fait de la condition esclave, eh bien, elle conduit rapidement, je parlais de la disponibilité des esclaves, du corps des esclaves à la pulsion agressive ou sexuelle, eh bien, une des conséquences, c'est la naissance rapide de nombreux enfants métis, pour la plupart nés de l'union contrainte des maîtres avec leurs esclaves, mais dont une partie se libère, est affranchie, accède à la liberté, soit comme affranchie, soit comme enfant, née libre. Des métis, certains africains, des noirs créoles, participent ainsi à la société de plantation. Ils héritent, acquièrent des esclaves, épousent des filles de colons. Sur le plan théorique et pratique, ils sont en mesure de franchir par leur statut la frontière qui maintient normalement les esclaves à l'extérieur de la société. Et c'est bien ce franchissement qui crée tout de suite des crispations dans la société coloniale. L'ascendance esclave, en fait, le signe de l'ascendance esclave est un stigmate puissant, puisqu'elle rappelle la possibilité de réactiver la violence interdite, elle rappelle la possibilité d'une transgression des règles fondamentales, et elle reste en cela une tâche macule dont il y a un fort enjeu à se distinguer, à se mettre à distance. Et les colons européens, leurs enfants, leurs descendants, cherchent à tout prix à s'en distinguer, en tout cas une partie d'entre eux. C'est le sens du mot « blanc » que l'on voit apparaître à ce moment-là dans la société coloniale, au milieu du XVIIIe siècle surtout, qui ne renvoie pas seulement à une couleur perceptible, mais bien à un statut, le statut de celui qui peut se prévaloir de n'avoir aucune ascendance esclave, à qui la mention de « libre » n'est pas nécessaire, puisqu'elle va de soi. C'est dans cette société esclavagiste, coloniale, que se forme ce préjugé dont je parlais au début. Il a une fonction, c'est de mettre à distance dans la proximité, c'est de maintenir une extériorité dans le domestique, et de soutenir ce paradoxe de l'absence-présence de l'esclave dans la société. Il est vrai que tant que l'institution de l'esclavage existe, qu'elle est en place, cette mise à distance, cette frontière existe dans la société. Elle est respectée, disons, plus ou moins. Mais plus l'institution de l'esclavage s'efface, et c'est ce processus qui est rapidement envisagé dès la fin du XVIIIe siècle, eh bien, c'est là que d'autres manières de faire vivre cette frontière, de la maintenir, de la reproduire, vont apparaître. Et c'est précisément le rôle de la race. Lorsque l'esclavage s'efface, c'est-à-dire, par exemple, lors des deux grandes révolutions démocratiques qui ont lieu à la fin du XVIIIe siècle, la naissance des États-Unis, la déclaration d'indépendance et la constitution des États-Unis, et puis la Révolution française. Dans les deux cas, on voit une société qui va se redéfinir politiquement sur le principe de l'égalité naturelle et de la liberté naturelle. Et c'est précisément à ce moment-là que l'on va voir se mettre en place ces différentes catégories de couleurs, donc des blancs et d'autres catégories, des noirs, des mulâtres, etc., qui, en fait, vont permettre de restreindre cette égalité naturelle, liberté naturelle, au fond, aux seuls blancs. Puisque dans les deux cas, que ce soit les États-Unis ou la France, enfin les États-Unis comme partie de l'Empire britannique, nous sommes dans deux sociétés profondément esclavagistes. Ce sont même les deux plus grandes sociétés esclavagistes à l'époque. Donc dans ces révolutions politiques, on peut dire, on voit très bien comment rapidement, seuls les blancs sont strictement égaux et libres, peuvent se marier entre eux, hériter entre eux, échanger des biens, etc., voter. Enfin, voter, c'est pas encore tout le monde, mais... Cette société coloniale, esclavagiste, c'est aussi donc là où s'est formé le préjugé de couleur, ainsi qu'on l'appelle à l'époque. Ça n'est pas simplement dans les sociétés américaines où ont lieu les relations esclavagistes, c'est aussi les sociétés des élites économiques et politiques européennes, des élites savantes qui circulent en fait en permanence entre les Antilles, Paris, Londres. Ce sont les mêmes qui investissent dans cette économie, qui votent, qui participent aux sociétés savantes, etc. Et c'est dans ces milieux que l'on va voir se mettre en place un discours à la fois savant et politique, qui reprend le principe qui circule alors d'une classification du vivant, qui va installer voilà, des classifications raciales, enfin des groupes humains, en prenant le terme de race, et qui va installer petit à petit l'idée que ces catégories au sein de l'humanité, eh bien, peuvent prendre à leur compte ces fameuses frontières, hein, ces fameuses frontières qui marquent l'extériorité du monde des esclaves. Et donc, progressivement, l'idée d'une race blanche, mais aussi d'une race noire ou d'une race nègre, puis au fur et à mesure d'une race jaune, d'une race rouge, voilà, ce discours, ces énoncés justement vont se déployer et le préjugé de couleur va trouver en fond un débouché, une rationalisation qui permet de renforcer l'idée de l'extériorité des noirs dans la société blanche. Mais aussi, et c'est ça le plus important, elle permet de continuer à justifier le recours à la violence et à la contrainte qui était au fond la fonction de l'esclavage. Et c'est d'ailleurs dans ces conditions que la discussion, très longue discussion, sur l'abolition de l'esclavage se tient en Europe et aux Amériques, c'est-à-dire au fond comment passer d'un système colonial à un autre. Comment continuer cette économie coloniale, mais sans la traite, puis sans l'esclavage. Cette discussion, elle est très longue. Elle est envisagée dès le milieu du XVIIIe, 1750. Elle va péniblement se résoudre à la fin du XIXe siècle, avec plusieurs étapes. Et il s'agit clairement d'une transition vers d'autres formes de contraintes, d'autres formes de déplacement forcé, de peuplement forcé, des contraintes qui sont plus diversifiées, qui s'adaptent aux différentes conditions climatiques, démographiques, politiques, qui sont celles des nouvelles zones de plantation que l'on explore et que les Européens conquièrent. Ces zones de plantation, elles vont s'étendre aussi avec le progrès du chemin de fer, de la navigation à vapeur, etc. Et où il faut souvent combiner peuplement, politique de peuplement, déplacement temporaire, aller et venir, et de toute façon, toujours avec une certaine forme de contrainte, de violence, qui est accompagnée, justifiée par des théories raciales. Alors, cette fois peut-être plus nuancée, par exemple, on va trouver comment telle ethnie a telle caractéristique qui permet, par exemple, de les déplacer temporairement, ou bien au contraire, de les supprimer, de les faire travailler, etc., etc. Donc ces préjugés, ils ont été amplifiés avec l'expansion coloniale, qui reste toujours donc au centre des économies. Mais plus seulement des économies, puisque à partir de la fin du XIXe siècle, de plus en plus la population européenne est, disons, mise à contribution dans cette entreprise coloniale. Ces préjugés sont enseignés à l'école. Il est vrai que parmi les élèves, peut-être certains vont devenir des colons, devoir partir, participer à cette œuvre de la colonisation. Beaucoup de ces Européens vont consommer des produits coloniaux. Il est de plus en plus l'enjeu d'en faire la publicité, c'est le rôle des expositions coloniales. Et donc, les nations européennes font l'apprentissage de la blancheur. La blancheur civilisée et l'existence d'autres races qui sont plus ou moins acivilisées. Et ce faisant, c'est la reconduction de cette frontière symbolique, mais extrêmement importante, entre extérieur et intérieur, domestique et étranger, blanc et non blanc. Et d'autant plus aiguë, cette frontière lorsque on est dans des situations de colonies de peuplement européen. Hein, c'est le cas en Afrique du Sud, aux États-Unis, c'est aussi le cas au Brésil, où il y a d'importantes migrations européennes à la fin du 19e. Et c'est ce qui permet de maintenir des situations paradoxales, c'est-à-dire, par exemple, la présence-absence. La personne née là est là, participe à la société, mais en fait n'en est pas membre, n'y est pas. C'est par exemple ce qui permet d'avoir ce type de relation avec l'employé de ménage, avec l'ouvrier, celui dont on ne considère pas qu'il puisse avoir de famille. pas de voix juridique ou politique, avec l'idée qu'il n'est pas en mesure d'engager lui-même des liens sociaux, en tout cas pas avec la société des Blancs, pas avec la société des égaux. Et c'est précisément cette frontière ou la possibilité de cette frontière qui est convoquée dans les interactions sociales que l'on peut qualifier de racistes, c'est-à-dire entre deux personnes qui vont avoir plus ou moins, l'un plus que l'autre, la possibilité de convoquer cette frontière, de rappeler qui est plus blanc que l'autre. Alors, une frontière qui est toujours débordée dans la société raciste, encore plus que dans la société esclavagiste où les choses sont plus stables, on sait qui est esclave, qui ne l'est pas, et cette instabilité, c'est justement ce qui pousse à toujours la réaffirmer, hein, comme s'il fallait toujours la performer, comme si la menace était toujours planante. Et donc, comprendre l'esclavage, c'est comprendre plusieurs choses sur notre société française. C'est ce qui nous permet de nous interroger sur le principe colonial. Quelle est l'actualité de ce principe? Qui est étranger, qui est partie prenante de la société, mais voilà, qui n'en a pas toute la, toutes les caractéristiques, tous les attributs, disons. C'est une manière de réinterroger la migration postcoloniale à cette lumière. Nous interroger également sur la centralité de cette dimension coloniale dans nos identités. Qu'est-ce que ça veut dire quand on s'est construit comme une société de libres, une société d'égaux? Il faut rappeler cette référence à l'esclavage, hein, c'est la base de notre construction comme société nationale, c'est la refondation de notre communauté politique. Eh bien, c'est précisément celui qui est libre, eh bien, on le distingue de l'autre esclave, un non-dit, un impensé, qui est quand même tout à fait présent dans la société. Et enfin, c'est essayer de comprendre ce qui se joue dans les interactions racistes, hein, cette dimension de violence, surtout de possibilité de la violence, cette menace d'une transgression, puisque c'est bien cette frontière qui aussi permet de déterminer les interdits, et qui fascine parfois, menace beaucoup, et dont il faut saisir la dimension anthropologique, je dirais. Et enfin, c'est essayer de comprendre comment toutes ces interactions participent des mécanismes qui reproduisent les inégalités. Hein, pas forcément par tel ou tel comportement individuel, mais par la façon dont cette histoire est intériorisée, comment elle suscite des stratégies d'évitement, des stratégies de remise à sa place, d'assignation, en permanence, et qui, tout simplement, nous permettent d'affronter cette question du racisme avec les bons outils, enfin, de bons outils, de nouveaux outils, que l'on n'a pas forcément suffisamment considérés jusqu'à présent. Je vous remercie de votre attention et j'espère que cette proposition suscitera des questions. Je serai ravie d'échanger avec vous à partir de ces propos.
Même audio, une mémoire sonore.